Bonjour à tous et bienvenue sur cette table ronde intitulée Éthique et intelligence, la compréhension comme condition de la morale, avec un point d'interrogation. Alors je vous présente Joël Vintrebert, auteur depuis 1980, qui a obtenu plein de grands prix littéraires, donc le GPI, le Ronnie-Aîné. Tu as écrit à la fois dans l'imaginaire et même pas que, des romans historiques également, des romans, des nouvelles. Jacques Arnoul, bonjour, spécialiste en histoire des sciences, histoire des religions, donc vous êtes un spécialiste de la culture au final, et entre autres vous êtes chargé de mission dans le domaine éthique auprès du Centre National d'Études Spatiales, très intéressant, et Xavier Mauméjean, auteur, spécialiste de la pataphysique, mendiant amateur je crois également, professeur, éditeur, philosophe également, Yannick Rumpala, maître de conférences en sciences politiques à Nice et spécialiste de recherche autour des mutations de la société, je crois. Sens-toi libre de me corriger, bien entendu. On y reviendra, très bien. Bon, alors le sujet aujourd'hui, éthique, intelligence, la compréhension comme condition de la morale, sujet pas si évident. C'est très intéressant de se demander, finalement, c'est un thème qui est transversal dans la science-fiction, de se poser la question, est-ce que l'intelligence, est-ce que la raison peut mener à prendre de bonnes décisions, des décisions plus justes? J'étais très intéressé pour commencer à réfléchir sur l'idée même, vu que nous sommes aux utopiales, de l'utopie. Plus près du micro, comme ça. Réfléchir sur l'utopie. La science-fiction, initialement, donc on peut parler de speculative fiction, de l'anticipation, c'est-à-dire qu'on envisage, on essaye de mettre en fiction entre la recherche et l'expérience elle-même, des idées scientifiques, des idées sociales, des idées politiques, de les mettre en œuvre et de voir comment elles peuvent s'agencer, ce qu'elles peuvent donner. On va essayer justement comme ça d'anticiper et de voir si les résultats sont bons ou sont mauvais. Et on voit que la science-fiction, par là, a dessiné beaucoup de choses à travers l'histoire. L'idée de l'utopie est très intéressante parce que je n'ai pas souvenir, justement, dans la science-fiction, d'une utopie qui fonctionne bien. Et je voulais te demander, Joël, en premier lieu, parce que tu es spécialiste de la question, ton point de vue sur les utopies, justement.
Je ne sais pas si je peux dire que je suis spécialiste de la question, mais c'est vrai que j'ai beaucoup écrit sur l'utopie. Et c'est vrai que mes utopies sont, si je reprends le mot d'Ursula Le Guin, après qu'elle avait écrit Les Dépossédés, ce sont des utopies ambiguës. Voilà, donc des utopies ambiguës pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit à la lecture que ces mondes qui ont été effectivement voulus utopiques, c'est-à-dire au sens de l'utopie, la bonne utopie, c'est-à-dire l'utopie, vous connaissez l'origine du mot, donc qui est fondée à partir du grec ou topos, le lieu qui n'existe pas. Donc on a des dystopies, c'est-à-dire des lieux qui n'existent pas, mais qui sont absolument catastrophiques, hein, avec l'exemple du meilleur des mondes de 1984. Et puis on a l'utopie fondatrice de Thomas More. Donc là, on a un exemple quand même d'utopie réussie, même si quelquefois ça grince un petit peu si on réfléchit un petit peu et qu'on va dans les coins. Et les utopies que j'ai écrites, effectivement, on s'aperçoit, si on prend par exemple mon roman Le Créateur chimérique ou plus récemment le livre que j'ai écrit qui s'appelle Pollen, que finalement, elles sont fondées de telle façon que le monde qui a été voulu vraiment très très novateur pour que on élimine le sexisme, le racisme, qu'on élimine tous les ismes en fait, ou dans le cas de Pollen, fonder une société sans violence, mais bon, finalement on s'aperçoit que cette société est inégalitaire, hein, puisque on a voulu pour éradiquer cette violence, fonder un monde où on aurait deux filles pour un garçon, donc avec tous les corollaires. Et puis bon, c'est une société effectivement extrêmement écologique, extrêmement pacifiste, mais finalement elle fonctionne au prix d'une protection guerrière et donc il y a quand même, ça grince de tous les côtés, voilà. Et on va s'apercevoir aussi au fil du roman que tout est fondé sur un mensonge. Voilà, donc finalement, ces utopies, elles seraient magnifiques, elles seraient formidables si les fondateurs avaient fait œuvre et fait preuve de morale. Voilà, et on en revient finalement au thème de notre débat. Est-ce que, quand on veut fonder une utopie, est-ce que finalement on peut la fonder d'une façon complètement démocratique ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va interroger la population qu'on souhaite, finalement protéger, qu'on souhaite finalement aider à trouver un monde meilleur ? Ou finalement, est-ce que, finalement, on revient aussi à Fondation, hein, tout ce qu'a mis en place Asimov avec la psychohistoire ? Donc, est-ce qu'on est démocrate, quoi ? Voilà. Où est la morale là-dedans ? Voilà.
Et j'en viens à une question qui est forcément liée. Est-ce qu'il peut exister quelque chose qui serait un plus grand bien ? Est-ce que vous avez une idée là-dessus ? Est-ce qu'on peut parler d'un plus grand bien ? Est-ce que la raison, donc l'anticipation ou l'intelligence, peut mener justement vers quelque chose qui serait plus juste ou meilleur ? Xavier, s'il te plaît.
Oui, mais il faut savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire que si vous avez décidé de privilégier l'intelligence et la morale, vous allez en enfer. Parce que vous allez avoir un système qui est extrêmement intelligent, extrêmement précis, mais qui n'admet aucune tolérance, aucune modification, etc. Justice, c'est la même étymologie que justesse. Quand on dit d'un calcul qu'il tombe juste, 2 plus 2, c'est 4, c'est pas 3,9, c'est pas 4,1. Donc si vous faites un système moral intelligent, vous le faites juste, et dans ce cas, vous n'acceptez aucune circonstance atténuante, aucune différence par rapport au système imposé, ce qui fait qu'effectivement, on a des utopies qui sont terrifiantes. Vous n'avez aucun à peu près, aucune ambiguïté, aucun flou qui fait la nature humaine. Et donc, vous avez un système qui peut parfaitement fonctionner, qui sera dit moral. Parce que tout est affaire aussi de récits. Si je vous dis, par exemple, c'est un exemple du philosophe Kant, je marche dans la rue et je vois un type passer qui est poursuivi par une foule. Cet homme, je le connais. Je sais qu'il est honnête. Je sais qu'il a volé du pain. Il me le dit. Il a volé du pain pour le donner à ses enfants parce qu'il est ruiné et il veut aider ses enfants à manger. Il n'est pas voleur. Il a volé circonstanciellement. Bon. Il me l'explique. Il se cache dans un coin. La foule arrive et je sais qu'ils ne seront pas inhumains avec lui. Ils vont l'arrêter. Ils vont l'amener en prison. Par contre, ses enfants lui seront retirés, etc. Et donc il est caché, je sais où il est. La foule me demande où est-il. Alors, tout le monde va dire, là, si je vous avais fait le détail des enfants, un enfant gentil, affamé, etc. Tout le monde va spontanément dire qu'il ne faut pas dire où il est. Si j'indique où il est, je suis moral. Tout simplement parce qu'il y a une règle qui est posée, je dois m'y tenir. Et si jamais je modifie cette loi, je suis immoral. Alors, il y a de l'immoral méchant, il y a de l'immoral gentil, il y a de l'injuste gentil, mais ce n'est plus la morale. D'où l'importance de l'éthique et le fait que dans les utopies, souvent, en fait, on a un clash, un combat entre la morale, qui a toujours des fins qu'elle veut bonnes, et une éthique qui les remet en question. Et en fait, l'intelligence n'est absolument pas un recours à la vie heureuse.
Alors, quel est le... Oui, vas-y.
Je vais reformuler la question, enfin, puisque l'enjeu du sujet, c'est de le problématiser, comme on dit. Et une manière de le problématiser, effectivement, c'est de se demander si un gain d'intelligence produit aussi un sens éthique plus développé. Et malheureusement, l'histoire montre que ça n'est pas le cas, enfin, puisqu'on a réussi à industrialiser le massacre de masse pendant la Seconde Guerre mondiale. Et effectivement, il y a toute une série d'exemples, y compris dans la période actuelle, qui montrent qu'effectivement, les gains de connaissances et les progrès en termes de savoir peuvent aussi aboutir à des formes d'instrumentalisation et de manipulation. Alors, j'ai aussi cité quelques philosophes. On peut commencer par Michel Foucault, qui effectivement montre très bien que le savoir, effectivement, comporte toujours une part de pouvoir, et que la tentation, c'est d'utiliser ce savoir pour effectivement des fins d'instrumentalisation et de manipulation. Donc ça peut être, dans la période actuelle, pour des fins de marketing, quoi. Enfin, on sait très bien que la neuroimagerie, pour rester sur la question de l'intelligence, peut aussi servir à repérer les zones cérébrales qui sont activées dans des situations où des messages sont reçus. Et les économistes travaillent là-dessus. Un autre philosophe intéressant qu'on aurait pu prendre, c'est Günther Anders, qui effectivement s'est beaucoup intéressé à la question atomique, à ce surcroît de connaissances que l'humanité a acquis en matière atomique et qui effectivement a donné de bombes atomiques et puis des utilisations qui peuvent effectivement poser question. Donc il y a toute une série de progrès qu'on pourrait attribuer à l'intelligence et qui malheureusement se payent de conséquences ou d'utilisations qui peuvent être pour le moins problématiques.
Est-ce qu'on peut distinguer un équilibre finalement dans l'utilisation systématique de ce que produit l'intelligence en termes de pouvoir?
Un équilibre, je ne sais pas, mais je vais employer un grand mot de philosophie et de sociologie, c'est la réflexivité. Ce qu'on pourrait être en droit d'attendre, c'est que l'humain, lorsqu'il fait progresser ses connaissances, fasse aussi progresser sa réflexivité, c'est-à-dire être capable de resituer les conséquences potentielles de ces mêmes connaissances. Donc, pour citer la liste des philosophes, on pourrait citer aussi Hans Jonas, qui effectivement considère que la maîtrise technique, le degré supérieur de maîtrise technique, doit être contrebalancé par ce qu'il appelle le principe responsabilité. Et ne pas laisser des développements technologiques sans une forme de réflexion sur effectivement les conséquences que peuvent produire ces développements technologiques.
D'accord. Et j'aimerais vous poser la question justement parce que vous travaillez peut-être plus directement avec ces questions-là, avec des applications plus concrètes. Et justement, quel est votre point de vue sur la question et quelles sont les applications pratiques qu'on peut envisager là-dessus?
De fait, à partir de ma pratique entre guillemets, puisque tu l'appelles comme ça, mais j'ai été amené à m'intéresser à toute cette littérature par rapport à laquelle je suis vraiment ignare, pas par désintérêt, mais bon, chacun a ses zones d'exploration. Et pour reprendre la question initiale, de fait, si j'ai bien compris le propos de Thomas More, s'il a créé une utopie, c'était pour empêcher sa société d'aller dans certains travers. Donc il y a dans l'utopie elle-même un propos éthique, de fait. Et si on décrit ici un certain nombre d'utopies, je parle avec beaucoup de naïveté et beaucoup d'ignorance, mais si on décrit un certain nombre de situations désastreuses, est-ce que ce n'est pas précisément pour reprendre le projet de Thomas More en disant, mais attention, si vous vous engagez dans tel ou tel type de société, peut-être pour de grands, ce qu'on disait à l'instant, de grands idéaux, vous risquez d'aller dans cette direction-là. Donc prenez conscience de ça. Enfin, j'ai vraiment l'impression que l'utopie a un rôle éthique, a priori. En tout cas, dans le propos de Thomas More. Ensuite, il y a évidemment la question du savoir et du pouvoir. Et c'est vrai que ce qui a été dit du nucléaire, ce qui a été dit du monde du militaire, ce qui peut être dit aussi du monde spatial aujourd'hui, peut plus généralement montrer aussi que nos technologies sont très facilement duales. Aujourd'hui, les fusées qui décollent de Kourou et d'ailleurs emportent aussi bien des satellites civils que des satellites militaires, et parfois même des satellites civilo-militaires. C'est simplement pour illustrer le fait que nos technologies, c'est pas qu'elles soient neutres, parce qu'elles sont humaines, donc elles sont nécessairement marquées. Mais elles possèdent, enfin, de facto, ces capacités à faire ce qui serait plutôt le bien ou plutôt le mal, mais c'est déjà difficile de savoir si le militaire est le mal, nécessairement non, et le civil est que du bien, nécessairement non. La question, c'est l'intelligence qui était un peu en retard. Et avec la tendance, peut-être, que nous avons à opposer les deux. Enfin, c'est un petit peu sous-entendu dans le c'est éthique et intelligence.
C'est une réflexion et c'est quelque chose qui a été très exprimé.
Est-ce que l'intelligence, c'est pas aussi la capacité à faire des choix, à discerner, et donc une... C'est en ce sens-là d'ailleurs que Posez-vous la question, qu'est-ce que l'intelligence ? Et j'ai l'impression que ça tourne à travers un ensemble de débats ici, parce que je l'ai déjà entendu tout à l'heure, et on l'entend presque en écho maintenant. Donc, se posent deux questions, et que moi, celle de l'intelligence, je suis totalement ignare, je sais simplement que intelligere, c'est aussi être capacité de discerner. Et l'éthique, alors là, c'est une question qu'on m'a posée, moi, je ne suis pas philosophe. Quand au CNES, on a lancé de l'éthique, on s'est dit d'abord, mais c'est quoi l'éthique ? Et la tendance a été d'être très juridique. Au fond, on a un droit spatial, donc il suffit de suivre le droit et on sera éthique. Mais non, ce serait terrible. D'abord parce que le droit n'est pas suffisant.
Ce serait moral.
Ce serait peut-être moral, mais ce n'est pas ce qu'on voulait faire. En tout cas, on nous avait dit, vous faites de l'éthique. Alors, comme on est obéissant, donc je caractère un peu, on se dit, au fond, est-ce que précisément ce qui nous est proposé de faire, c'est de nous poser des questions ? Non pas d'abord d'agir, mais en l'occurrence de s'interroger. Et notre boîte à outils très simple, c'est d'être capable au moins de se poser les questions avant même d'y répondre sur le pourquoi de nos activités, le comment et les conséquences. Voilà comment aujourd'hui on essaie d'être intelligent et éthique au CNES. C'est tout ce que je peux vous dire.
Je rajouterais qu'un gros enjeu, c'est aussi la question de la concordance des temporalités. La question, c'est dans quelle mesure la réflexion éthique peut aller au même rythme que le niveau de développement technologique. Et un des problèmes qui se pose effectivement actuellement, c'est que la réflexion technologique va beaucoup plus vite que la réflexion éthique. Et la question, c'est effectivement la concordance entre les deux. Et on est dans un décalage qui, effectivement, pose problème, avec des développements techniques qui ont des conséquences que leurs concepteurs n'envisagent même pas, qui peuvent être ressaisis d'une manière qui n'est absolument pas envisagée. Donc c'est une vraie question.
Justement, je rebondis sur ça parce que on a un exemple très fort en science de dérive entre morale et éthique du fait du déplacement temporel, c'est la médecine. Si on lit Hippocrate et les épidémies, Hippocrate est ce qu'on appellerait un chercheur, il ne soigne pas. Hippocrate observe. Il a compilé différentes observations qu'il destine à des médecins qui, eux, exerceront une médecine pratique. Donc, Hippocrate laisse mourir des patients, qui ne sont d'ailleurs pas des patients, qui sont des malades. Et cela au nom d'une morale globale qui serait de fixer des règles, des lois et de l'expérience médicale. Donc, lui est un chercheur, un peu comme on ne pourrait pas reprocher à un chercheur de l'Institut Pasteur de laisser mourir quelqu'un. Cette conception de chercheur qu'il y avait dans l'Antiquité. Donc on a une morale et qui ne pose pas de problème. Maintenant, ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate est un serment éthique qui correspond à l'éthique médicale et qui englobe beaucoup plus de soucis de l'autre, d'attention, de particularité du médecin. On n'a plus affaire à un cas. Hippocrate avait affaire à des cas. Le médecin a affaire à des gens. S'il est humain, il a affaire à des gens, même pas à des patients, à des gens. Donc là, on a affaire à un système complètement dépassionné et nécessaire au départ, qui se transforme en système qui se soucie de l'autre et qui est une éthique médicale. Cela dit, quand les médecins prêtent serment sur les écrits d'Hippocrate, il ferait bien de les lire, parce qu'ils prêtent serment sur des choses qu'ils ne connaissent pas, et notamment s'il y a des médecins ou du personnel soignant ici, sachez que si vous êtes médecin, vous devez la gratuité à tout membre d'une famille d'un médecin. C'est important à signaler.
Alors, j'ai envie de revenir sur la question en prenant ce coup-ci un exemple de fiction. Et j'avais envie de parler, parce que je suis toujours curieux de savoir ce qu'on en pense, si vous connaissez la bande dessinée Watchmen. Voilà. Où, justement, alors pour essayer de placer le propos en général, l'humanité court un très grave danger, une menace nucléaire, on va dire une continuité de la guerre froide. On est à minuit moins une, peut-être, sur la menace sur l'horloge nucléaire. Et un personnage extrêmement intelligent va faire en sorte, désolé pour le spoil, hein, mais ce personnage va trouver une solution, si on peut appeler ça une solution, qui n'est absolument pas démocratique, qui n'est probablement pas éthique, mais qui va probablement pouvoir sauver l'humanité. Malgré elle, en faisant sauter, on va dire, toutes les grandes villes de la planète et en préservant donc une sorte d'équilibre en essayant de proposer finalement une coalition contre un ennemi imaginaire qui disparaît à ce moment-là. Justement, je voulais avoir votre avis sur ce genre de situation. Est-ce que devant une impasse, devant un dilemme moral ou un dilemme éthique, je ne sais pas comment on peut le formuler à ce moment-là, quelle est votre opinion ? Parce que justement, à ce moment-là, la décision démocratique aurait peut-être mené à la fin de l'humanité. Joël.
Ah, c'est toute la question du dilemme moral, effectivement. Hein. Voilà. Est-ce qu'on peut sacrifier toute une... Enfin, moi, j'ai pas lu cette bande dessinée, mais est-ce qu'on peut sacrifier finalement toute une partie de l'humanité pour sauver une plus grande partie de l'humanité, en fait, c'est ça l'idée. Voilà. Donc, voilà, c'est une grande question.
C'est un thème qui est assez transversal dans la science-fiction. Je pense qu'on peut retrouver énormément de grands méchants jusqu'à... forcément, dans Asimov, lui-même, jusqu'à l'adaptation.
Mais là, dans la bande dessinée, robots. C'est un méchant ? Non, c'est pas un méchant.
Il n'y a pas de question de gentil et de méchant.
Il n'y a pas de jugement de valeur porté sur le personnage.
C'est laissé au lecteur
de décider.
Il y a une sorte de triptyque très intéressant.
De décider si c'est un méchant ou si c'est un gentil.
Il y a trois personnages qui sont extrêmement singuliers les uns des autres. Il y en a un qui lutte perpétuellement pour la justice individuelle et appliquée à chaque instant. Un autre qui, justement, va avoir cette action et qui est, à ce moment-là, l'homme le plus intelligent du monde et à qui un autre personnage aura dit au début du roman qu'il s'agissait qu'il ne devienne pas l'homme le plus intelligent du tas de cendres.
Ouais.
Et un troisième personnage qui lui est doté de pouvoir sans limite et qui va devenir plus ou moins qui va être désigné comme l'ennemi de l'humanité, à tort bien entendu, mais il comprend la justesse de cet acte et il va s'exiler en faisant croire à sa présence sur Terre.
On en revient à une question de morale en fait. Ça me fait penser, mais dans un tout autre registre, à une très très belle nouvelle de Ursula Le Guin qui s'appelle « Ceux qui partent d'Homélas ». Hein. Je ne sais pas si vous la connaissez. Et donc on est dans un contexte utopique. C'est à Homélas, tout le monde vit d'une façon merveilleuse, tout le monde est heureux. Et on s'aperçoit, alors c'est un spoiler, excusez-moi, mais à la fin de la nouvelle... que le fait que effectivement tout le monde soit si bien, que l'univers de ces gens soit si utopique, c'est au prix du fait qu'un enfant est enfermé dans une cave et que lui est très malheureux. Voilà. Mais effectivement, on est très très bien dans cet univers, mais au prix du malheur de cet enfant. Voilà. Alors, est-ce que c'est éthique justement ? Voilà. Et c'est une nouvelle d'une force absolument extraordinaire.
Xavier, un avis sur la question ?
Non, en écoutant Joël et puis en écoutant ton rappel des Watchmen, je me dis que effectivement la science-fiction n'est pas avare de ce genre d'exemple. On a dans la tradition, on a la machine à explorer le temps. C'est très compliqué de savoir quel est le rôle et le bien et le mal des Eloi et des Morlocks. Les uns nourrissent les autres, qui servent de pâture au premier, une sorte de boucle morale difficile à comprendre. Il y a « je suis une légende », quel est le statut du survivant à la fin ? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire, du point de vue en tout cas de la nouvelle société, de le sacrifier, ce dernier humain, cette légende ? C'est vrai, la science-fiction, souvent, réfléchit sur cette question du bien commun, et le bien commun il n'est pas nécessairement explicable aux gens. On ne peut pas compter sur l'intelligence des gens, et c'est dit sans arrogance, c'est une question de temps de trouver X milliers d'éléments de persuasion alors qu'un mensonge suffirait. C'est ce que montre par exemple Platon dans La République, qui est aussi un grand livre de science-fiction, qui est que si on diffracte l'explication en autant de citoyens, on n'y arrivera jamais. Donc il faut un mensonge ponctuel au nom d'une éducation tardive, plus tard, au nom d'une utopie. C'est moralement très embêtant.
J'avais écrit une nouvelle qui s'appelle « La journée de la guerre ». Et c'était pour le... l'année de la paix pour l'UNESCO. Donc ça avait été publié dans les Brios pour cette année de la paix. Et en fait, l'idée, c'était d'écrire une nouvelle dans ce contexte, l'année de la paix. Voilà. Comment est-ce qu'on pouvait, un écrivain de science-fiction pouvait imaginer la paix, comment on pourrait faire advenir la paix. Et en fait, dans cette nouvelle que j'ai fait lire à Merlin, enfin, je ne sais pas si tu l'as lu, on imagine vivre aux humains, enfin, à toute une catégorie de la population, puisque c'est pas au monde entier, faire vivre d'une façon virtuelle une journée où ils vont vivre quelque chose d'absolument terrible. Et de cette façon, on va voir comment ils réagissent à cette guerre, en fait, cette situation de guerre. Et est-ce qu'ils sont capables, après avoir vécu cette violence, de pardonner ? Voilà. Et s'ils ne sont pas capables de pardonner, donc ils vont aller finalement dans un centre qui va leur permettre de résister à leur réaction de violence. Ils vont finalement être un petit peu dans une situation de redressement moral, psychologique, etc., jusqu'à ce qu'ils soient capables de vaincre leur pulsion de violence. Et finalement, on s'aperçoit à la fin que... enfin, je voudrais, pour ceux qui liraient cette nouvelle, je voudrais pas faire un spoiler, mais on s'aperçoit à la fin finalement que toutes ces images virtuelles viennent de quelque chose qui n'est pas très 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 reluisant. Voilà.
Alors justement, j'ai envie de revenir sur un point que vous avez abordé. C'était la temporisation du progrès. Et je voudrais m'adresser à toi, Jacques, pour savoir justement, est-ce qu'en pratique, c'est quelque chose qu'on peut envisager ? Parce que j'ai l'impression que la technologie et en fait la technique avance, et sur ce principe-là qu'on fait des choses principalement parce qu'on peut les faire. Et au moment où on peut les faire.
C'est sans doute la situation la plus répandue, mais elle n'est pas, c'est pas la seule situation possible. On est parti effectivement plutôt de l'exemple de la médecine ou de choses qui nous touchent assez directement, dans lesquelles à la fois, je crois, l'imagination des ingénieurs, la curiosité des chercheurs, la demande sociale, et donc le fait qu'on soit prêt aussi à mettre des moyens. Alors, on sait qu'il y a aussi quelquefois des campagnes nécessaires derrière, mais il y a quand même un intérêt qui nous est assez direct, qui fait que les choses avancent et paraissent même parfois avancer trop vite par rapport au temps de la réflexion. Et même quand il y a une réflexion, elle se porte souvent sur des choses qui sont déjà dépassées. On voit bien dans les questions de loi biomédicale, c'est assez terrible, parce que il faut du temps pour discuter. Et puis déjà, les chercheurs disent « mais non, mais ça c'est dépassé, on a déjà une nouvelle technologie qui résout d'ailleurs peut-être un certain nombre de problèmes qui étaient posés par la précédente ». Enfin, donc ça, c'est vrai que c'est une situation à laquelle nous sommes... habitué, on est assez contemporain de ça et on s'en rend compte. Je pense qu'il y a d'autres situations où les choses, de fait, les temps sont différents. Et aussi où la réflexion, les conditions générales font que ça ne va pas aussi vite. Quitte à être contredit, je pense à deux exemples. Le premier, c'est le génie génétique. Le génie génétique a plus de 30 ans d'existence. Dans la technologie même qui est au cœur du génie génétique. Et aujourd'hui encore, c'est un sujet qui est discuté, fort heureusement, à la fois pour des raisons techniques, des raisons scientifiques, mais aussi des raisons sociales et économiques. Parce que les entreprises qui, derrière, dont on aurait pu penser qu'elles mettent immédiatement en branle les grands systèmes pour gagner de l'argent, l'ont fait, mais pas partout, à cause d'une certaine pression sociale et qui a de fait et qui encore aujourd'hui fonctionne plutôt bien. Enfin, après on peut discuter, débattre, mais donc je pense que là la temporalité, elle est, je dis pas qu'elle est pas si mauvaise que ça, mais il y a quand même on prend le temps pour différentes raisons, simplement qu'on peut avoir peur de dire si je mets trop vite un produit OGM sur le marché, en fait, je ne vais pas gagner d'argent. Bon, c'est une raison qui paraît bassement matérielle, mais en tout cas, elle est efficace. Donc, il faut aussi partir de là. Le deuxième exemple, qui n'est pas plus radical, mais alors là, qui relève d'autres formes, en tout cas, de pouvoir. Donc ça, c'est celui qui relève plutôt de mon domaine, sinon de compétences, en tout cas d'activité. Prenez le programme américain de retour sur la Lune. Au début des années 2000, George Bush, fils, décide de faire comme Kennedy et d'annoncer un grand programme de retour sur la Lune en pensant qu'il allait avoir un gain politique dans l'affaire. Donc début des années 2000. Et on lance, alors les Américains lancent un grand projet, Constellation, enfin un tas de noms, un tas de choses comme ça. Évidemment, les industriels sont très heureux derrière. Et en 2008-2009, quand Obama arrive à la présidence, il demande un rapport sur les activités spatiales et le programme américain d'exploration. Et la conclusion de ce rapport, c'est que ce n'est pas du tout raisonnable, j'allais dire ce n'est pas du tout intelligent, si on pouvait utiliser ce terme-là, de retourner sur la Lune. Mais pour quelle raison ? Lune, il y a un tas d'éléments d'analyse technique, industrielle, économique. Mais au cœur de ça, il y a un petit paragraphe qui, moi, m'intéressait par rapport à la casquette avec laquelle je me balade dans le domaine spatial. Un petit paragraphe qui dit simplement il faut être capable de distinguer le but et la destination. Si on va sur la Lune simplement pour aller sur la Lune, c'est une destination. Bien. Mais est-ce qu'on a un but ? Et au jour d'aujourd'hui, nous, Américains, c'était en 2008-2009, nous n'avons pas de but pour nous rendre sur la Lune. Donc, conclusion qui a été adoptée par Obama, on arrête le programme de retour sur la Lune. Donc, et c'est des programmes à plusieurs milliards. Enfin, ce n'est pas des petits programmes à quelques centaines de millions d'euros. C'est des gros programmes. Donc, il y a vraiment, dans ce cas-là, me semble-t-il, une... Alors, je suis pas pro-Obama pour autant, mais prenons les choses enfin, concrètement. Là, il y a un moment donné où, dans une communauté, à la fois enfin, avec une expertise et aussi un acteur politique, je crois qu'on a joué quelque chose... Alors, ils ont quand même, pendant 6-7 ans... le débat est ouvert, mais me semble-t-il quand même la capacité à poser une question, celle du pourquoi, et à dire, ok, on a une destination, mais on n'a pas de but, donc ben, attendons, et utilisons cet argent pour peut-être faire plus de techno, pour faire un certain nombre de marches technologiques à franchir que nous ne voulons pas qu'en franchir, etc. etc. Donc un exemple simplement pour contrebalancer peut-être un certain pessimisme en disant, oui, bon, de toute façon, les ingénieurs, ils font toujours ce qu'ils veulent, ils font n'importe quoi, etc. Bah, pas toujours. Quelquefois, ils sont obligés par le politique au sens strict du terme et une certaine forme de démocratie, parce que, bon, on est encore en démocratie, ils sont obligés de faire attention. Tant mieux, on peut peut-être s'en réjouir et puis essayer d'étendre ça à d'autres domaines.
Moi, j'ai une question à ce sujet. D'après vous, la sphère technique, technologique, les acteurs de cette sphère, est-ce qu'ils ont des buts propres autres que la réalisation ? Est-ce qu'il y a un rêve, des idéaux ? La question elle est un peu naïve, je me doute bien que les gens sont portés par des idéaux, mais est-ce qu'on voit des idéaux, des buts, des finalités qui se dessinent indépendamment des sphères politiques, économiques ? Est-ce que vous avez cette impression ?
C'est une question difficile, je ne peux répondre que par rapport à l'expérience que j'ai à me balader dans ces milieux-là, et évidemment, c'est comme partout, il y a de tout. Il va y avoir des chercheurs, des ingénieurs qui sont là pour le plaisir du faire, simplement du réaliser. L'ingénieur, c'est celui qui adore réaliser, qui a une idée, jusqu'où va-t-il pouvoir la réaliser. Mais parmi eux, et je dirais une illustration, ben c'est ceux que je rencontre régulièrement, qui ont une capacité à distinguer peut-être justement la destination et le but. C'est-à-dire la destination serait simplement être capable de construire une fusée qui soit encore plus puissante ou éventuellement plus économique, etc. Mais un certain nombre d'entre eux, enfin, j'en suis le témoin, s'interrogent aussi sur le pourquoi, c'est-à-dire à quoi ça va servir, dans quelle société. Et, alors, ça peut aussi servir de justificatif à ce qu'ils font, en disant, nous, on a envie que la société, dans tel sens, on a un certain projet sociétal, et donc on vous amène la technique pour le faire. Tout ça peut être assez bien construit et aussi discutable. Mais je crois qu'on a la chance dans un certain nombre de domaines scientifiques et technologiques, et les utopiales en sont à la fois, sont la preuve de d'où ça vient et où ça va, d'avoir énormément de gens passionnés par ce qu'ils font, parce qu'il y a justement des racines qui relèvent peut-être un peu du but, mais dont les racines se trouvent ici autour de nous, ou ici avec chez Jules Verne. Et ça, dans le domaine spatial, c'est quand même tout à fait évident. Quand un jeune étudiant me dit « je suis aujourd'hui à l'ENAC parce que un jour j'ai entendu une conférence, on m'a dit que pour pouvoir sauver un jour le monde contre un astéroïde tueur, on pourrait... » Attendez, l'image est belle parce que on pourrait utiliser une autre technologie que celle à la Hollywood et on pourrait simplement aller peindre l'astéroïde et comme ça modifier la réflexion du soleil dessus et peut-être tenter de sauver. Et moi, il me disait, ben, à sa manière à lui, moi je voudrais être un jour peintre d'astéroïdes. Bon, mais il sait très bien qu'il ne sera jamais peintre d'astéroïdes, c'est pas ça, mais donc il y a quand même quelque chose derrière et ça je trouve ça magnifique.
Et j'aimerais poser une dernière question alors. Justement, est-ce que la science-fiction ne serait pas à la fois le lieu et le temps démocratique de la réflexion et de la morale ? Yannick, tu as préfacé justement le recueil des Utopiels, peut-être.
Oui, moi c'est une de mes convictions. C'est effectivement un des rares lieux où on prend le temps, entre guillemets, de réfléchir sur le devenir de notre monde contemporain. C'est de fait la science-fiction. Enfin. Là aussi, pour employer des grands mots, c'est une manière de problématiser des enjeux qui sont assez rarement mis dans le débat public. Malheureusement, il y a peu de médias pour s'en saisir. Puis il y a la vieille image que trimballe la science-fiction, qui est réduit à Star Wars. Non pas que j'aime pas Star Wars, mais enfin voilà, à une forme ludique, peu évoluée, peu réflexive. Ce que j'essaie de montrer effectivement dans mes travaux, c'est que la science-fiction, c'est une vraie manière de se saisir d'enjeux qui vont être déterminants dans les années qui viennent. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des développements technologiques, c'est qu'il y a des évolutions qui sont très fortes, qui vont impacter très fortement nos sociétés, et sur lesquelles on réfléchit quasiment pas. Donc moi, je me suis intéressé aux intelligences artificielles, mais ça pourrait être aussi la biologie synthétique, les nanotechnologies, pour reprendre le débat de la session précédente, les algorithmes, le rôle des algorithmes dans nos vies quotidiennes. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du rôle entre savoir et pouvoir, c'est qu'on a toute une série de connaissances dont on s'aperçoit qu'elles peuvent faire l'objet de formes d'instrumentalisation. Donc typiquement la neuroimagerie qui est ressaisie par les gens du marketing pour effectivement susciter le désir du consommateur. On est sur des enjeux qui sont pour le coup éthiques. Alors on a des belles revues dans le monde du business qui réfléchissent à ces questions-là, qui prétendent réfléchir à ces questions-là, mais qui ont des impacts assez marginaux. Donc moi, je suis convaincu que la science-fiction est une belle manière d'amener le public qui est ici, notamment, mais pas que, à réfléchir sur cette question-là, par une voie qui est peut-être un peu plus facile que la réflexion philosophique un peu ardue que j'ai citée, qui ne sont pas accessibles à tout le monde.
Oui, moi, je suis convaincu que la science-fiction est la littérature philosophique d'aujourd'hui. J'ai dit toujours, et je ne suis sûrement pas la seule à le dire, que si Voltaire écrivait aujourd'hui, il écrirait des romans de science-fiction. Ça me paraît une évidence absolue. Voilà.
Pas un mot de plus, entièrement d'accord. Oui. Et j'ajouterai une petite chose sur ce fond qui est mille fois d'accord, qui a d'expérience entre auteur de science-fiction, lecteur de science-fiction, une tolérance et un respect... communautaire, le mot le plus neutre possible, ce qu'on pourrait appeler une démocratie, qui fait qu'on peut chacun proposer des modèles expérimentaux à travers nos romans et tout, et il y a un accueil toujours, une bienveillance, un intérêt qui fait que c'est une dynamique de recherche continuelle.
Oui, c'est vrai que le milieu de la science-fiction, c'est un vrai microcosme. Et il y a, comme tu dis, il y a une vraie dynamique entre nous. Et donc, on a des échanges constants et c'est extrêmement enrichissant.
Eh bien, je pense qu'on arrive et qu'on est tous d'accord sur cet aspect-là. Il faut prendre le temps de la science-fiction. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît ? J'ai vu la main au milieu se lever en premier. Désolé.
Oui, bonjour, merci. Ça va plus être une remarque qu'une question.
Levez-vous, s'il vous plaît.
Voilà, ça va plus être une remarque qu'une question, parce que dans la table ronde, vous avez beaucoup évoqué la question du progrès technique, et notamment des conditions d'application pour améliorer la condition de nos vies. Je tenais juste à préciser que la question mérite d'être posée aussi pour un progrès auquel on pense peu, qui est le progrès de la connaissance du fonctionnement humain. Je veux dire, il y a les sciences humaines aussi, la sociologie, la psychologie sociale, que je connais personnellement très bien, qui également amène des progrès dans la question de comment est-ce que nous fonctionnons, comment est-ce qu'on réagit par rapport à l'autre. Et vous avez tout un champ de connaissances qui se développe auquel on ne réfléchit pas à l'application éthique. Vous avez par exemple des travaux de Robert Vincent Joulet sur la soumission librement consentie qui échappe pour grande partie au grand public, mais qui n'échappe pas à une partie très intéressée par ce type de travaux qui vise à montrer comment est-ce qu'on peut nous donner l'illusion que nous avons le choix de ce que nous faisons alors qu'en fait le choix est déjà fixé par quelqu'un d'autre. Voilà, donc vous pouvez répondre bien sûr à la remarque, mais je tenais juste à la faire. Merci.
Moi, je suis un peu sociologue aussi, donc je dirais que oui, effectivement, ça réfléchit un peu, mais pas suffisamment. Un sujet, par exemple, qui me perturbe, parce que j'ai travaillé et un peu réfléchi là-dessus, c'est en sociologie, on a quelque chose qui s'appelle l'analyse de réseau. Et de fait, l'analyse de réseau, bon, je ne sais pas si vous, enfin, beaucoup sont sur Facebook, vous voyez ces espèces de mapping qu'on peut faire aujourd'hui. Et à mon avis, il y a un gros problème éthique aussi, qui est qu'on peut utiliser l'analyse de réseau pour manipuler des populations. Quand vous arrivez à repérer, par exemple, les nœuds de réseau, c'est-à-dire ces lieux influents, ça peut être une manière aussi d'influencer des idées pour répandre. Et c'est pour ça que les Américains, et notamment l'armée américaine, réfléchit à l'analyse de réseau comme moyen de lutter contre les mouvements terroristes et les mouvements insurrectionnels. Donc il y a toute une réflexion dans ce qu'on appelle les théories de la contre-insurrection sur la manière d'utiliser l'analyse de réseau pour repérer ce qu'on appelle les nœuds de réseau en sociologie, donc les individus dont on sait que leur élimination aura de fortes chances de déstabiliser le réseau en question. Donc ça peut être les leaders, ceux qui approvisionnent en armes, ceux qui approvisionnent en financement. Et l'armée américaine, la Navy, a des chercheurs qui réfléchissent à la manière d'utiliser l'analyse de réseau pour déstabiliser des mouvements. Et ça, enfin, là, quand on dit terroriste, effectivement, on se dit oui, c'est sympa, mais d'autres utilisations peuvent être envisageables. C'est voilà, qu'est-ce qu'on appelle un terroriste? Et quand on sait que quelqu'un, enfin bon, je ne vais pas faire le lien avec l'actualité, le barrage de Sivens, mais pour le FBI, quelqu'un qui est un peu véhément en matière de lutte écologique est considéré comme un éco-terroriste. Donc on est sur des dilemmes éthiques qui sont effectivement lourdes de conséquences.
Le rapport minoritaire pour demain, Xavier?
Oui, juste une chose pour rebondir. Je pense pas que les travaux de sociologie soient si ignorés que ça. C'est vrai que la sociologie, depuis 30 ans, notamment, il y a eu un nouveau bond qui a beaucoup apporté. Les anglo-saxons ont de l'avance sur nous. Par contre, moi, c'est dans votre formulation qu'il y a quelque chose qui m'ennuie. Vous parlez de comment fonctionne l'homme, et ça a des vieux relents mécanistes philosophiques. D'ailleurs, le défaut est philosophique. Et ça m'embête toujours qu'on puisse dire que parler de fonctionnement de l'être humain. Mais je pense qu'on est tous prisonniers du langage. C'est pas bien grave.
Oui, en fait, moi, je voulais revenir sur le concept d'utopie dont on parlait au début. En fait, je voulais poser la question de l'utopie au sens collectif, où on essaie d'avoir une morale toute prête faite, des idéaux qu'on fournit à la population en disant voilà, vous n'avez plus à réfléchir, justement, vous n'avez plus à être intelligent parce qu'on vous fournit les règles qui font tout bien marcher. Et est-ce qu'au contraire, justement, mettre l'intelligence au service de l'éthique, c'est pas justement développer vraiment une sagesse personnelle, avoir le courage de faire face justement à un dilemme moral et de redonner la responsabilité à chacun d'être un élément constituant d'une société qui marche bien par sa propre responsabilité et sa propre intelligence, et de toujours, en fait, se poser la question de réadapter à la situation, au contexte, est-ce que telle ou telle action est éthique maintenant et elle ne le sera pas dans un système fixe parce que ça change tout le temps.
Ça serait évidemment l'idéal, c'est clair. Mais le problème de l'utopie, c'est que la plupart du temps, elle impose un cadre figé. Et donc, on aboutit à des sociétés qui sont extrêmement régulées et donc très, très rapidement qui aboutissent à des normes, quelque chose de normatif et figé. Donc, l'individu ne va pas forcément pouvoir se remettre en question dans cette société figée. C'est ce que montrent bien les Dépossédés d'Ursula Le Guin, où quand, effectivement, un personnage décide d'utiliser sa liberté personnelle, ça remet tout en question. Voilà.
pour compléter sur cette question d'utopie anarchiste, là, il y a aussi l'exemple de Greg Egan avec le roman L'énigme de l'univers où l'île d'Anarchia ressemble un peu à ce que tu décris comme société où chaque personne est libre de ses choix. Et en fait, c'est une utopie qui a l'air de fonctionner dans le roman en tout cas.
Bonjour. Je voudrais revenir sur... on parle beaucoup des connaissances et de leur application au niveau de l'éthique et de la morale, et on a beaucoup parlé de leur application au niveau de la société et au niveau des consciences collectives. Mais j'aimerais juste revenir sur quelque chose qu'on n'a pas vraiment abordé, c'est la connaissance en elle-même et son impact sur l'éthique et la morale, et ce, au niveau de l'individu. J'aimerais bien prendre en exemple un antagoniste d'une histoire que j'aime bien, où cet antagoniste fait partie d'un peuple où chacun est immortel. Quand une personne meurt, elle revient à la vie, mais n'a pas ses souvenirs de sa vie précédente. Sauf une personne parmi eux qui a les souvenirs de chacune des anciennes vies. À partir de ça, il en tire un besoin de connaissance, afin de ne pas s'ennuyer, et va finir un beau jour par avoir exploré à peu près tous les recoins de sa planète et arriver dans un ennui existentiel, une souffrance existentielle, car il n'a plus rien à découvrir. Et donc son besoin de connaissance va finir par le tirailler vers l'idée d'explorer des champs de la connaissance qui échappent à l'éthique, qui échappent à la morale, afin de satisfaire un petit peu son but personnel. Donc on arrive dans un cas où la connaissance en elle-même, la connaissance brute, que ce soit dans son besoin ou dans son surplus, pousse à titiller les limites de l'éthique ou de la morale. Et ça, on n'en a pas parlé jusqu'ici.
J'ai coutume à dire que le sacré doit être transgressé. Le terme sacré étant utilisé de manière généraliste, et dans nos sociétés, on l'utilise volontiers par rapport à un certain nombre de sujets que nous avions peut-être en tête dans notre discussion. Enfin, quand on a commencé à découvrir ce que voilà, la question des gènes, la question de l'ADN, la vie est sacrée, on n'y touche pas. Et je crois que le sacré doit être transgressé. C'est-à-dire que si on se met des limites, c'est bien parce qu'on sait qu'au-delà des limites, il y a quelque chose. Sinon, il n'y a pas de limite. Et que cette autre chose qui est derrière, on se refuse, en temps normal, d'y pénétrer ou d'en agir comme ça, sauf certains nombres de situations particulières. Et quand on voit les traditions du sacré à travers les cultures, il y a toujours un moment ou une circonstance où il est prévu que ce qui a été déclaré sacré ou la limite peut être transgressée. Pas n'importe comment, pas pour n'importe quelle raison. Et c'est là que, d'une certaine manière, justement, où l'individu ou un petit groupe d'individus doit être suffisamment lucide, suffisamment intelligent et peut-être prêt aussi à prendre des risques, enfin, tout ce qui est nécessaire pour se dire, eh bien, dans cette circonstance-là, je vais transgresser ce qui était jusque-là considéré comme intransgressable, je vais outrepasser, mais parce que je suis conscient d'un certain nombre de situations. Je ne sais pas si c'est plutôt pour faire écho à votre remarque plutôt que de répondre. Je crois qu'il y a effectivement des situations où il faut, où, de fait, même dans nos sociétés, nous avons prévu et l'humain a prévu ce genre de situation-là. Alors, après, évidemment, il y a plein de sacrés et donc plein d'occasions et plein aussi de précautions. Après, c'est simplement une généralité que j'essayais d'introduire.
Je réfléchissais aux deux exemples qui ont été donnés, Watchmen et la nouvelle d'Ursula Le Guin. Est-ce que beaucoup de problèmes éthiques de cet ordre-là ne peuvent pas être réglés d'une manière assez simple, finalement, par des approches utilitaristes à la Bentham, en tentant de maximiser le bien-être total?
C'est ce qu'essayent de faire effectivement de fait certains économistes, c'est calculer les conséquences en donnant des formes de représentation à ces conséquences. Et effectivement, la version la plus réduite, c'est l'analyse coût-avantage telle que la promeuvent effectivement certains économistes, ce qui, pour le coup, épargne d'avoir à réfléchir sur les enjeux éthiques. C'est, voilà, ça coûte autant, ça rapporte autant, et c'est le rapport coût-avantage qui, effectivement, valide la décision. Et pour le coup, effectivement, on est dans une perspective utilitariste poussée à son extrême. Tout à fait.
Oui, j'avais une question dans le contexte actuel complexe. Je voulais savoir
comment on pouvait avancer pour résoudre un petit peu un problème éthique qui pourrait être la question globale ou locale du réchauffement climatique ou de la pollution des eaux et des déchets, dans le cadre justement où on se pose, où on n'a pas tous l'intelligence suffisante pour répondre à ces enjeux, mais qu'on sait aussi que si on agit individuellement tous à notre façon, ça ne marchera pas non plus. Alors, est-ce que Alfred Jarry peut nous aider ? Et est-ce que, il y avait un débat tout à l'heure sur la fabuleuse épopée des inadaptés en science-fiction, est-ce qu'il ne va pas falloir aussi compter sur ces inadaptés pour finalement les mettre en valeur, les protéger et peut-être les imiter un petit peu ?
Non, en deux minutes, le sujet est énorme, parce que sur un sujet comme le réchauffement...
Je travaille dessus en agriculture, dans les transports...
Le nombre d'acteurs potentiellement en jeu, le nombre de processus sociaux engagés, la complexité, le degré d'interdépendance de ces processus sociaux font que c'est un dilemme qui est absolument insoluble. Ça fait partie aussi des questions qui m'animent. Je ne vois pas comment traiter collectivement ce type de questions, parce que ça arrive à... Enfin, ça suppose d'arriver à mettre en concordance des intérêts, des valeurs qui sont tellement divergents. Enfin, déjà, arriver à mettre autour de la table des États autour de questions communes. Enfin, vous voyez comment ça s'est résolu à Copenhague. C'est qu'effectivement, on n'en est pas sorti. Ou les récentes discussions au niveau européen. Et ça fait partie des dilemmes dont je ne vois pas comment, effectivement, on peut arriver à s'en sortir par le haut. Alors, non pas pour terminer sur une note pessimiste, mais tout à fait. Il y a des travaux, enfin, il y a des gens qui sont spécialisés sur l'affection éthique, sur les questions environnementales, avec des revues qui sont quasiment maintenant spécialisées là-dessus, et avec des formes de postulats. Enfin, voilà, donc c'est tout le débat sur le principe de précaution, c'est tout le débat sur la question des conséquences. Hein, et on retombe sur quasiment des débats à la Max Weber. Quoi. Est-ce qu'on est dans une éthique de responsabilité où ce qui va compter, c'est effectivement la prise en compte des conséquences, ou est-ce qu'on est dans une éthique de conviction où ce qui domine, c'est un choix moral qui est fait d'emblée, avec effectivement une mise entre parenthèses de certaines conséquences. Donc après, c'est l'arbitrage entre les enjeux économiques, les enjeux écologiques, les enjeux sociaux. Enfin, on est sur des questions qui sont absolument énormes. Enfin, les questions de développement, enfin, on est dans un degré d'interdépendance qui est absolument insoluble. Enfin, voilà, si vous travaillez là-dessus, enfin, c'est abominable. Pardon ? Oui, tout à fait. Mais à la limite, il y a la devise Shadok qui marche très bien, c'est que quand on ne sait pas où on va, il faut y aller le plus vite possible. Quoi. Voilà, donc autant aller à la catastrophe, et puis au moins les choses seront résolues.
Sur cette magnifique conclusion, on arrive au bout du temps qui nous a été imparti. Je vous remercie.